Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et les images chrétiennes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans le studio le directeur de recherche du groupe sur la cathédrale de Chartres, groupe de recherche sur la cathédrale de Chartres. C'est un groupe de recherche mis en place par le Centre international de Vitrail à Chartres et je salue donc dans le studio la présence d'Arnaud Timbert.
Bonjour.
Bonjour Arnaud. Vous êtes un historien et très grand connaisseur des cathédrales de la Picardie. Vous avez participé à plusieurs émissions de télévision d'ailleurs. Donc je voudrais vous laisser tout de suite la parole afin que vous puissiez nous présenter ce groupe de recherche, de qui il est composé, quels sont les buts et un peu l'histoire. Merci
beaucoup. Oui, merci. Alors ce groupe de recherche est composé de plusieurs chercheurs, bien évidemment. Groupe de recherche élaboré à l'initiative de l'Université de Lille 3 avec le partenariat, c'est très important de le souligner, de le rappeler, du Centre international du vitrail. Donc l'objet est de suivre les restaurations et à l'occasion des restaurations d'observer, d'analyser des faces du monument accessibles à la faveur des échafaudages et par conséquent des éléments que l'on ne voit jamais ou que l'on n'a jamais vus. Et surtout que l'on ne reverra plus d'ici plusieurs dizaines d'années. Par ailleurs, les travaux permettent de mettre en valeur dans le bâti, parce que les travaux touchent au monument, retirent des pierres, retirent des enduits, des éléments qui sont des découvertes. Donc il faut les analyser. Donc l'objet de ce groupe de recherche est d'observer le bâti, le monument, dans sa matérialité, et de mieux comprendre les techniques de construction, le choix des matériaux. Donc c'est un projet de recherche assez novateur dans le sens où il agrège des spécialistes de la matière, que sont les métallographes, pour l'analyse du métal, qu'il s'agisse du métal fer comme du métal plomb. Il y a naturellement des spécialistes de mortier pour ce qui est des enduits, d'autres archéologues du bâti pour les marques lapidaires, les traces d'outils, des géologues pour le choix des matériaux, etc. Et l'ensemble de ces observations fera l'objet de deux réalisations, enfin deux conclusions. La première, sous forme de session de journée d'études organisée par le Centre international du vitrail, où tous les membres de ce groupe de recherche interviendront, donc en octobre et en mars prochain, et surtout d'un ouvrage qui colligera l'ensemble des observations, des articles, des études faites par chacun de ces chercheurs. Donc c'est un ouvrage et des journées d'études, mais un ouvrage plus particulièrement qui sera, dans lequel participe l'architecte des monuments historiques, M. Calvel, qui constituera une étape très importante dans la connaissance du monument et surtout dans l'histoire du chantier. Puisque ce chantier, un chantier des monuments historiques, pour la première fois, bénéficiera d'un ouvrage qui va, en 90% de son contenu, traiter des restaurations. Donc dans l'histoire de la cathédrale, dans l'histoire des monuments historiques, ce livre aura un rôle. Bon ou pas bon, il aura une valeur, une pièce, un rôle à jouer dans l'écriture de cette histoire, au-delà de l'apport scientifique qu'il représente.
Est-ce que vous parlez du livre que le diocèse est en train de préparer sur la cathédrale de Chartres, à l'image des autres ouvrages
sur... Non, je ne parle pas de ce livre-là, je parle du livre que je dirige avec le Centre international du vitrail, donc spécifique à ce groupe de recherche. Tandis que l'ouvrage dirigé par Monseigneur Doré est un ouvrage qui appartient à une collection, celle de La Nuée Bleue, l'édition La Nuée Bleue, et qui traite de toutes les cathédrales, mais sur le plan, sous toutes ses facettes.
On va sans doute intégrer dans ce livre quelques
pages
sur les dernières
restaurations. Il y aura des éléments, oui, est intégré sur les matériaux et les techniques de construction.
Surtout, l'ouvrage profitera de toutes ces récentes images qui montrent les vitraux restaurés, les murs qui ont été restaurés. Mmh. On en parlera sans doute. Oui, il est bon de rappeler que ce groupe de recherche pour la cathédrale de Chartres n'est que la suite de ce que vous faites depuis de longues années déjà en Picardie. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler un peu ce colloque qui s'est tenu à Noyon, où tous ces résultats ont été présentés?
C'est une recherche, effectivement, qui a ses fondements sur les monuments picards et de Noyon en particulier. Donc à Noyon, on s'est engagé en 2002 un programme de recherche qui va être concrétisé dans le mois par un ouvrage sur justement les techniques de construction, les matériaux qui permet Pourquoi étudier les matériaux et les techniques de construction? Pour deux choses. La première, effectivement, nous touchons une période de l'art, 12e, 13e siècle, qui voit apparaître l'architecture gothique, mais période sur laquelle on a très très peu de textes. Donc, on a étudié ces monuments sur le biais des formes, par le biais des formes, qu'on a pour dater des phases de construction, etc. Mais on arrive à un point de connaissance où les formes ne nous apportent plus grand-chose. Donc, voire rien. Donc, on renouvelle la connaissance des monuments par le biais d'un autre vecteur qui est les matériaux et les techniques de construction, qui permet de renouveler notre appréciation des formes et donc aussi de préciser les datations que l'on donne sur le fondement des analyses formelles. Donc, de ce point de vue, l'étude des matériaux et techniques de construction est très importante. D'un autre point de vue, elle permet, parce qu'il n'y a pas de texte, de sortir du néant, de sortir de l'anonymat, un ensemble, une masse humaine très importante, que sont les plombiers, les tailleurs de pierre, les maîtres verriers ou travailleurs du verre, et de tous les autres matériaux, bois, métaux, etc., sur lesquels on ne sait rien.
Voilà, peut-être pourriez-vous nous dire que la construction gothique n'est pas que la pierre.
Voilà, et c'est ce qui a permis effectivement d'aboutir à un premier colloque en 2006, qui a été publié en 2009 aux éditions Picard, et qui s'intitule « L'homme et la matière, l'emploi du plomb et du fer dans l'architecture gothique », qui a montré effectivement que les métaux étaient très très nombreux dans l'architecture médiévale et favorisaient, donc imposait la prise en compte d'une main-d'œuvre qualifiée en la matière et était très important ces métaux dans l'architectonique, dans l'équilibre du monument. D'ailleurs, à Chartres, on peut observer, ça fera l'objet d'une étude dans cet ouvrage que j'ai mentionné à venir, on a observé un nombre de pièces de métal, de fer notamment, mis en œuvre, très important, notamment autour des roses des fenêtres hautes du chœur. Donc on attend avec impatience de voir si c'est la même chose dans la nef, visiblement non, où il y a des tenons métalliques disposés non pas après la mise en œuvre, mais avant la mise en œuvre, avant que les pièces de pierre soient mises en œuvre, et qui avaient un rôle évident dans la manutention des blocs, comme dans la préservation des vitraux. Mais on ne sait pas encore, on ne comprend pas vraiment
en quoi ça sert. Est-ce qu'il y a autour des roses dans le cœur de Chartres,
de Chartres, oui.
Comme un cerclage tout autour?
Non, il y a des tenons en fer avec des orifices qui permettaient de tendre des cordes, très vraisemblablement, pour maintenir des planches destinées éventuellement à protéger les vitraux ou, plus vraisemblablement, à obturer les fenêtres le temps du tassement du monument, puisqu'on met les vitraux que à un moment où le monument est tassé.
Très bien, on fait une petite pause musicale. Arnaud Timbert, grand spécialiste des cathédrales de Picardie et directeur de recherche du groupe de recherche sur la cathédrale de Chartres, ses matériaux de construction et sa polychromie, est avec nous dans le studio de Radio Grand Ciel. Et je lui laisse très volontiers, très vite la parole afin qu'il puisse nous présenter les résultats ou déjà les résultats intermédiaires des premiers travaux effectués sur la cathédrale de Chartres. On venait de parler des matériaux métalliques utilisés dans la construction, les tenons en fer.
Effectivement, oui. Alors les premiers résultats sont assez, assez intéressant. Bah, pour le métal, puisqu'on était sur ce sujet, on est certain que les métaux mis en œuvre dans la cathédrale ont été placés lors de la construction, et qu'il s'agit bien de métaux du XIIIe siècle, puisqu'on a une réduction du minerai pour la réalisation du métal qui correspond bien aux techniques employées avant le XIVe siècle.
Je sais que vous n'êtes pas forcément spécialiste du fer, mais que vous connaissez tout. Parlez-nous de la réduction du minerai. C'est le bas-fourneau qui est utilisé.
Alors, il y a le bas-fourneau qui est utilisé avant le XIVe siècle, en Picardie tout du moins. Donc très vraisemblablement, c'est le cas dans ce grand chantier de Chartres. Et tout chantier de cathédrale avait sa forge. Malheureusement, les textes ont disparu, mais on est en droit de l'imaginer pour plusieurs raisons, puisque d'une part, ils utilisent beaucoup de fer, et puis il faut créer et entretenir les instruments des tailleurs de pierre, mais d'autres éléments métalliques qui sont utilisés dans les instruments de levage en bois. Et notamment, il ne faut pas oublier que, contrairement à ce que l'on pensait encore il y a peu, dans les charpentes, il y a des pièces métalliques qui favorisent la mise en œuvre et la stabilité des charpentes. Effectivement, on a cet exemple à la cathédrale de Rouen. Bon, effectivement, ici, on ne trouvera plus de charpentes en bois à Chartres, puisque tout a disparu au XIXe siècle. Mais en tous les cas, il y a un emploi du métal qui va au-delà du matériau pierre, il va au-delà du matériau pierre, mais qui touche d'autres matériaux. Mais enfin, là, l'autre belle découverte de ce chantier mené par Patrice Calvel, l'architecte des monuments historiques, c'est d'avoir mis au jour la polychromie, donc l'enduit de couleur crème à joint blanc qui revêt l'ensemble du monument et qui est le premier à avoir été placé lors de la construction et qui par conséquent est contemporain de la construction. Donc ça, c'est une première chose, puisque ça révèle une couleur assez blanche, assez crème, hein, qui renvoie à une idée de la polychromie de la lumière, puisque ces revêtements reçoivent de la lumière, mais produisent aussi de la lumière, d'où l'effet aujourd'hui esthétique très important qui apparaît dans le cœur libéré de ces échafaudages.
Et qui est mis en valeur plus que la noirceur des murs, la beauté et l'éclat des verrières.
Voilà, parce que jusque-là, les verrières paraissaient flotter un petit peu dans une absence totale de structure. Aujourd'hui, elles sont structurées par les colonnes blanches, des murs apparaissent en faux appareils et qui donne un sens, donne un cadre, donne une structure à ces vitraux qui ne paraissent pas ainsi voler de manière...
Alors faux appareils veut dire que l'on a pris la peine de repeindre autour des pierres les joints avec une couleur blanche pour les souligner.
Voilà, des fausses pierres peintes qui renvoie à l'exactitude, qui renvoie à la perfection de la Jérusalem céleste, mais qui ne remploie pas, d'ailleurs, l'appareil mis en œuvre à Chartres. Et là, c'est un autre élément important. Effectivement, à Chartres, contrairement à toutes les cathédrales de la même période, il y a un hiatus qui s'impose entre la qualité de l'écriture de l'architecture de la cathédrale, c'est-à-dire de son esthétique, le dessin de ses baies, de ses chapiteaux, de ses piles, donc qui relève donc de l'écriture de l'architecte, et l'emploi d'un appareil monumental avec des pierres qui peuvent atteindre parfois 3 mètres de long en partie haute, ce qui impose une cathédrale qui n'est pas bâtie comme les autres cathédrales, qui sont bâties avec des pierres de dimensions beaucoup moins grandes, qui peuvent atteindre 30, 40 cm de long.
Alors, vous avez constaté donc à Chartres, dans les très hautes hauteurs, des blocs de pierre énormes.
Jusque dans les parties hautes, voilà.
Ce qui n'est pas le cas, semblerait-vous dire,
ailleurs.
Pour les autres
cathédrales. Non, pas du tout. C'est totalement archaïque. Par ailleurs, donc il y a...
Mais la cathédrale de Chartres passe pour avoir été l'une des premières à avoir utilisé ce vocabulaire architectural du gothique. Et on a l'impression qu'elle colle un peu.
Voilà, c'est-à-dire qu'elle est très novatrice pour son esthétique, mais pour ses techniques, elle est très archaïque. Par ailleurs, ces grands blocs sont toujours agrafés, donc par des agrafes de fer qui peuvent atteindre 90 cm de long. Donc nous sommes dans une technique architecturale qui relève de l'Antiquité. On a une cathédrale qui est bâtie par la masse, plus que par l'équilibre. Donc on est dans une conception que, entre guillemets, bien évidemment, entre guillemets, on peut dire romane, hein, qui n'a rien à voir, même si, bien évidemment, elle épouse certains de ses critères, avec l'architectonique gothique. Donc ça, c'est très important. Pourquoi un tel hiatus entre les formes, la qualité des formes et la novation des formes et cet archaïsme intentionnel des techniques, parce que bien évidemment tout ceci est intentionnel, et bien parce que les techniques ont un rôle, à mon sens, dans la symbolique du monument. Et qu'effectivement, un monument n'a de sens à condition qu'il s'inscrive dans la continuité historique. Au Moyen-Âge, on ne peut pas bâtir quelque chose qui ne s'inscrive pas dans la continuité de l'histoire. Sinon, on serait en rupture avec le Christ et avec l'histoire du Christ même. Donc ça ne peut pas fonctionner. Par conséquent, les formes, souvent, réemploient des matériaux de l'œuvre antérieure. Lorsqu'on construit une cathédrale, on réemploie les matériaux de l'œuvre antérieure. L'œuvre nouvelle absorbe la substance du monument antérieur et ainsi, matériellement, il y a une continuité historique. Mais à Chartres, outre d'avoir réemployé la crypte de Fulbert qui conditionne le plan de la cathédrale, on a employé une technicité intentionnellement archaïque pour pondérer la nouveauté esthétique et inscrire, faute de le faire par les formes, le monument dans la continuité historique par le biais des techniques.
Oui, mais ça voudrait dire qu'au moment où on construit la cathédrale de Chartres, le gothique est tellement nouveau et novateur qu'on n'a pas osé se libérer du roman, ce que nous appelons aujourd'hui roman, alors que dans d'autres cathédrales où on n'observe plus ces archaïsmes, on est libéré de cette contrainte. Donc est-ce qu'il ne faut pas reposer la question autrement? Quelle est la datation de la cathédrale?
La datation de la cathédrale est quand même bien... Moi, je pense qu'elle est bien, bien établie. Mais il faut quand même dire que le gothique a un siècle déjà derrière lui. Ce n'est pas la première cathédrale gothique. Donc
oui, mais la cathédrale, selon l'historiographie officielle, datant du XIXe siècle, aurait été complètement détruite en 1194. Donc elle serait 50 ans postérieure aux cathédrales comme Notre-Dame de Paris, qui ont été commencées bien avant. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait utilisé à Chartres ces archaïsmes alors qu'à Paris, on s'en était déjà libéré?
Parce qu'à Paris, la cathédrale antérieure, la cathédrale Saint-Étienne, est très largement recitée dans la cathédrale actuelle. Et notamment, nous avons une cathédrale qui a 5 vaisseaux dans sa nef, qui renvoie en définitive à la nef de Saint-Étienne, qui est la cathédrale antérieure, et à la nef de Saint-Pierre de Rome aussi, c'est une référence à Saint-Pierre de Rome, ces 5 vaisseaux. Et par ailleurs, il y a des murs très lisses, dotés d'une très faible modénature, donc de contraste avec la lumière, qui renvoient à l'architecture antérieure également.
Vous êtes le spécialiste des modénatures. Rappelez-nous...
Les moulures, oui, si vous voulez, les moulures, les tailloirs, tout ce qui n'est pas décoré de feuillage, mais de formes géométriques. Les bandeaux, les bases, des colonnes.
Je ne voulais pas vous dévouer de votre sujet qui était la polychromie.
On peut citer un dernier exemple qui est très important, qui est la cathédrale de Noyon. La cathédrale de Noyon, elle a un plan, est un édifice totalement nouveau lorsqu'elle est construite dans les années 1150. Mais elle reprend des espaces qui appartiennent à la cathédrale antérieure. C'est-à-dire qu'on a un transept à extrémité hémicirculaire qui appartient à la cathédrale antérieure, qui, par les formes, est totalement nouveau, mais qui renvoie à l'espace auquel les chanoines étaient habitués.
On fait une petite pause musicale et après, je vous redonnerai la parole.
Thank you.
Arnaud Timbert, dans le studio de Radio Grand Ciel, nous parle de la cathédrale de Noyon, qui a repris dans sa construction gothique des formes de l'époque romane.
Voilà, ça c'est très, très symptomatique et représentatif du Moyen-Âge. À Chartres, on reprend les techniques de la période antérieure pour inscrire la cathédrale dans la continuité historique. À Noyon, on est peut-être plus subtil encore. On reprend ce qui est de l'ordre de l'immatériel. On reproduit des espaces, des formes spatiales de l'édifice antérieur. Il y a un transept de façade totalement archaïque pour la période gothique qui appartient en définitive à la période carolingienne, donc très vraisemblablement à la cathédrale antérieure. Il y a un transept à extrémité hémicirculaire qui est propre à la période carolingienne également, mais totalement archaïque pour cette période. Donc, en créant une cathédrale aux formes totalement nouvelles, on pondère cette nouveauté en ne supprimant pas les espaces du quotidien, les espaces qui ont une vocation liturgique ancrés dans ce monument. Et surtout, on ne crée pas de rupture avec la cathédrale antérieure qui était celle du sacre du Capet et du sacre comme roi de Neustrie de Charlemagne. Donc un édifice qui est véritablement ancré dans l'histoire, entre guillemets, nationale. Donc il y a toujours des moyens, qu'ils soient formels, en termes d'espace ou de technique, comme à Chartres, qui renvoie au passé. Donc ça c'est très, très important et ce qui permet de mettre cet archaïsme intentionnel technologique de Chartres dans un univers, dans une manière de penser et de concevoir le temps qui est tout à fait représentatif de l'époque. Autre élément important pour ce chantier de Chartres, donc qui fera toujours l'objet de cet ouvrage publié par le Centre international du vitrail l'année prochaine, c'est la polychromie, puisque, comme nous l'avons souligné, il y a une polychromie intérieure, donc, mais aussi, et ça c'est très important, une polychromie extérieure. À savoir que la cathédrale était entièrement peinte à l'intérieur comme à l'extérieur, que la couleur intérieure était la couleur extérieure. Or, la couleur au Moyen-Âge, c'est considéré comme une lumière matérielle. Lorsque nous avons fait cette observation, qui est une découverte commune avec d'autres chercheurs, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir observée, on a observé d'autres monuments pour tenter de voir s'il y avait d'autres monuments qui pouvaient bénéficier d'une telle réalité chromatique extérieure. Alors c'était le cas très vraisemblablement pour les frises, c'est-à-dire les corniches hautes du vaisseau de la cathédrale d'Amiens. Nous avons regardé de près la cathédrale de Noyon, on a observé que l'ensemble du cloître était peint à l'extérieur, donc ceci fera l'objet dans un ouvrage qui paraît ce mois-ci sur la cathédrale de Noyon, publié par la Société historique de Noyon, sous ma direction. Donc un article sur cette polychromie, et il est vrai qu'à la cathédrale de Strasbourg également, il y avait de la polychromie extérieure. Alors pourquoi peignait-on ainsi les monuments entièrement à l'extérieur? Parce que ça a un coût. En définitive, c'est pas si étonnant que ça. Il n'y a qu'à regarder les églises de Roumanie qui sont entièrement peintes à l'extérieur, de représentations figurées quant à elles. En définitive, la couleur étant une lumière matérielle, eh bien, cela permettait de rendre cette opacité de la cathédrale eu égard à l'emploi de ces matériaux lourds que sont la pierre et le fer, eh bien, transparente d'une certaine manière. Puisque la lumière matérielle qu'est la couleur enveloppait totalement le matériau et, eh bien, annihilait, faisait disparaître le matériau sous un halo de lumière. C'est ça, la cathédrale gothique. Ce n'est pas simplement l'accroissement progressif des baies, c'est aussi une gestion de la lumière matérielle qui est totale.
Donc une dématérialisation.
Une dématérialisation. Une quête constante de l'immatérialité qui est en rapport avec le côté translucide que doit avoir la cathédrale. La cathédrale qui est traversée par des rayons de lumière qui traversent les vitraux sans les briser, c'est aussi cette cathédrale qui doit être entièrement en lumière. Et ceci trouve un aboutissement, cette conception, cette théologie, la lumière qui s'exprime à travers les matériaux et l'esthétique médiévale, trouve un aboutissement il y a peu dans la façade de la cathédrale de Notre-Dame de la Treille à Lille, façade contemporaine faite avec des matériaux lithiques, mais à la faveur de la technologie qui est la nôtre aujourd'hui, des matériaux lithiques qui sont découpés dans de si fines lames que la lumière passe à travers. Et donc nous sommes là en pleine exaltation de ce pourquoi l'Église est faite, de ce rapport entre le contenant et le contenu, de la matrice et de son empreinte. La lumière est passée à travers Marie sans lui porter atteinte. Et a donné vie.
Saint Bernard que vous citez.
Voilà, et a donné vie. C'est la cathédrale qui fonctionne ainsi aussi. Mmh. La lumière passe à travers la matière et vient donner vie à l'intérieur de cette matière.
Et on peut contempler cet effet déjà en se rendant dans la cathédrale de Chartres par une belle journée ensoleillée pour voir ces deux chapelles de l'abside qui ont été restaurées.
Tout à fait, oui.
Ensuite le chœur, la partie haute du chœur qui resplendit dans cette peinture très claire, et on est en train de nettoyer la partie inférieure du chœur.
Voilà, les sculptures néoclassiques sont en train d'être nettoyées. Alors, elles sont très belles, elles ont un rôle important dans l'histoire de l'art. Elles ont aussi l'inconvénient de troubler dans ce monument que le Moyen-Âge nous a légué quasiment authentique. Néanmoins, ces tours de cœur ont néanmoins l'inconvénient de troubler la lecture, parce qu'initialement, on voyait à travers les colonnes.
Mais est-ce qu'on n'a pas pu, à la faveur de ces restaurations, regarder sous les recouvrements en marbre ce qu'il y avait dessous ?
Alors, ce n'est pas d'actualité. Il faut quand même tenter de le faire. On va voir justement ça. C'est un projet avec M. Calvel, d'éventuellement aller voir ce qu'il y a derrière. Hein, parce que ça pose un vrai problème. Sachant que le tour du cœur du XVIe siècle était fait pour être transparent, entre guillemets, hein, pour laisser des ajours. C'était en définitive plus une grille lithique de cœur qu'un mur, hein, comme à Amiens, par exemple. Donc on voyait à travers et ça permettait de décloisonner les espaces et de favoriser le cheminement de la lumière. Or, avec ces bas-reliefs néoclassiques, eh bien, on sommes face à un cloisonnement opaque. Total. Mais enfin, il est très important de les restaurer parce qu'aujourd'hui, ils sont sombres et créent un contraste.
On peut pas les arracher.
On peut pas les arracher. Non, il faut pas. Enfin, ça se fait pas.
Parce qu'en plus, on ne sait pas ce qui a été changé derrière.
Non, et puis de toute façon, il n'y a pas de raison d'arracher. Ça fait partie de l'histoire. C'est comme si on dérestaurait Viollet-le-Duc aujourd'hui. C'est scandaleux. Donc, ça fait partie de l'histoire. C'est un apport, un acquis. L'histoire du monument, donc il faut le sauvegarder.
Et peut-être voulez-vous rappeler que ce qui se passe entre les deux tours, dans l'ancien narthex de la cathédrale de Chartres, voilà, il y a un échafaudage actuellement.
Dans les deux tours.
Pour terminer, puisque l'émission malheureusement touche déjà à ça.
Les travaux se poursuivent et la polychromie est également mise au jour, les vitraux sont restaurés, ce qui permet d'observer des traces, des marques d'outils, des marques lapidaires, mais également peut-être des marques de consécration réalisées au pinceau en haut des voûtes. Donc ça, c'est à l'étude par Didier Méhu de l'Université Québec à Laval, de l'Université de Laval à Québec, pardon, qui analyse ces traces, ces marques qui seraient peut-être des marques de consécration de compagnons. Donc les compagnons ayant leur manière de consacrer parallèlement, concomitamment ou indépendamment des hommes d'église. Donc ça c'est très intéressant. Donc ça, on en saura plus plus tard. Et donc cet avant-nef qui effectivement permet pour les spécialistes de cet avant-nef de voir des choses sur les techniques de construction et les phasages qui sont très intéressants.
Est-ce qu'on a une idée quand est-ce que ces travaux entre les deux tours seront terminés ?
Alors je ne sais pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Patrice Calvel a très intelligemment commencé le chantier par l'Orient, qu'il a sauté la nef pour continuer à l'Occident et que par conséquent, il sera obligé de réaliser la nef. Donc ça, c'est très bien.
Voilà. Merci, chers auditeurs. Merci surtout, Arnaud Timbert, de nous avoir parlé de ce groupe de recherche, de vos lumières sur la cathédrale de Chartres. Nous suivons avec grand intérêt tous ces travaux et vos publications qui sont très nombreuses. Merci d'avoir pris le temps de venir.
Merci.
À très bientôt et au revoir.